10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Damien Fleurot, Aurélie Herbemont.
Bonjour à tous, notre invité ce matin est Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
La France vit à l'heure du coronavirus, stade 2, stade 3 sans doute dans quelques jours, alors qu'on vote dans une semaine pour les municipales. Comment contenir l'épidémie? Comment assurer un bon déroulement du scrutin dans ce contexte? L'Assemblée nationale aussi est touchée par le virus. L'Assemblée où la bataille des retraites a eu lieu ces derniers jours, quand va-t-elle reprendre au Sénat? On va parler de tout ça avec vous. Pour vous interroger à mes côtés, Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Aurélie.
On commence bien sûr avec l'épidémie de coronavirus. Ce soir, Emmanuel Macron préside un troisième conseil de défense. Vendredi, il était dans un EHPAD de Paris.
La phase 3, quand elle sera là, on va prioriser sur les publics les plus fragiles. C'est pour ça que c'est des endroits comme les vôtres. Mais sur la vie sociale et pour vous, on est aussi très vigilant, et on l'a été en phase 1 et phase 2, à avoir des mesures qui sont proportionnées. Vous avez vu d'autres pays ou d'autres régions qui ont tout fermé. Pourquoi on ne ferme pas tout? Parfois, les gens nous demandent. Si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants.
Damien Fleurot vous pose la première question.
Oui, bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
Savez-vous ce qui sera annoncé ce soir au Conseil de défense, un stade 3 a priori dans quelques jours?
Non, pas encore. Il faut d'abord avoir le relevé des cas qui auraient de nouveau aujourd'hui et depuis hier soir, au fond, et c'est à partir de ces données-là, de la progression de l'épidémie, que sera déclenchée la phase 3.
C'est uniquement un sujet de comptabilité,
c'est un sujet d'épidémiologie, et il faut regarder dans l'épidémie à quel moment on considérera qu'on est dans une phase où le virus, ou le coronavirus, est suffisamment, si je peux dire, largement répandu pour justifier de passer en phase 3.
Parce qu'on a l'impression que l'exécutif prépare les Français à ce stade 3.
Mais toutes les phases se préparent.
Pour éviter une sorte de psychose, de comportement peut-être.
Je crois que l'exécutif a fait le choix depuis le début de la transparence, de l'information régulière des citoyens et de l'information aussi sur l'évolution de l'épidémie et les différentes phases qui ponctuaient, si je peux dire, l'épidémie. La phase 1 qui était une phase plutôt pour éviter que le virus ne vienne sur le territoire national. Une fois que le virus était sur le territoire national, la phase 2 qui est une phase pour ralentir la progression du virus et la phase 3 qui est une phase de disposition particulière, en particulier en matière sanitaire, pour mieux répondre dès lors qu'un certain nombre de Français seraient touchés.
Et justement, on va refaire un petit point sur le dernier bilan dont on dispose. 16 morts, 949 contaminations, dont 45 personnes qui sont en réanimation. Nicolas Barré.
Oui, alors pendant ce temps-là, notre voisin, l'Italie, prend des mesures absolument spectaculaires, hein, puisque un quart de la population qui vit dans le Nord est placée en quarantaine. Dans tout le pays, les écoles, les cinémas, les théâtres, les discothèques sont fermés pour un mois. Est-ce qu'on peut imaginer un tel scénario en France ?
Ce n'est pas le scénario que nous avons choisi. Les Italiens ont fait des choix. Alors, ils l'ont étayé hier soir du fait que, manifestement, leur système de santé posait des difficultés pour répondre à une propagation rapide du virus. Et donc, ils ont pris des mesures de confinement très généralisées. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est 15 millions de citoyens italiens qui sont restreints dans leur capacité à se mouvoir à l'intérieur de ce périmètre et surtout à l'extérieur de ce périmètre. C'est pas le choix que nous avons fait. Après, chaque pays réagit en fonction de sa structure sanitaire et de son dispositif sanitaire. Je crois qu'il y avait un sujet de difficulté à répondre d'un point de vue sanitaire au sud de l'Italie, et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix au nord de l'Italie de confiner le territoire. Ce n'est pas le chemin que nous avons employé. Le chemin que nous avons employé, c'est un chemin de confinement là où il y avait des foyers viraux très importants et qui manifestement se répandaient rapidement. Et ce n'est pas un choix de confinement généralisé.
Il y a deux départements, d'ailleurs le Haut-Rhin et l'Oise, où les écoles seront fermées 15 jours. Vous considérez que pour la France, le système sanitaire est plus solide pour encaisser cette crise
que le système sanitaire que nous connaissons bien et qui fait face à une crise comme il y a eu d'autres crises sanitaires essaye de faire face. C'est l'occasion quand même de saluer tous les personnels sanitaires, les personnels hospitaliers, les personnels dans les EHPAD qui se mobilisent très grandement en ce moment pour faire en sorte de répondre au mieux à cette crise sanitaire.
Marc Fesneau, l'Assemblée nationale aussi est touchée. Trois députés sont atteints du coronavirus ainsi qu'un salarié. D'autres personnes sont aussi en cours de dépistage. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles ?
Pas de nouvelles particulières. J'ai échangé hier soir avec la députée Toutou Picard
de Haute-Garonne
qui avait eu un test positif mais qui est rentrée chez elle et qui est, je crois, dans une situation sanitaire correcte, puisque ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des gens qui sont touchés par ce coronavirus. Il faut dire les choses comme elles sont. Le président de l'Assemblée nationale a pris très rapidement les choses en main avec des réunions à la fois avec les personnels, des réunions et des diagnostics faits sur les parlementaires ou les personnels collaborateurs de parlementaires ou fonctionnaires qui pouvaient avoir été en contact avec les personnes qui étaient détectées positivement au coronavirus. Le Richard Ferrand suit au jour le jour et à l'heure l'heure d'ailleurs. La question, il prévient les présidents de groupe quand c'est, il a besoin de le faire. On est dans un dispositif. Au fond, à l'Assemblée nationale, on fait comme dans le reste du territoire français. Ça n'est pas une zone hors droit et hors précautions sanitaires. Et donc, on prend les mêmes précautions. J'ajoute que l'Assemblée nationale a cessé de siéger jeudi soir. Que donc 40% en gros du personnel fonctionnaire est en congé pendant cette période-là. Et que l'Assemblée nationale travaille un peu plus au ralenti. Je crois que le président de l'Assemblée nationale a pris toutes les mesures nécessaires. Et par ailleurs, il y a aussi des mesures de télétravail qui permettent aussi de provisoirement...
Justement, parlons-en, Marc Fesneau, vous êtes le ministre en charge des relations avec le Parlement. Le Parlement qui a mis en pause ses travaux à cause de la campagne des élections municipales. Les travaux sont censés reprendre le 23 mars au lendemain du second tour. On voit aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a une possibilité que le Parlement ferme. Est-ce que cette possibilité-là, elle est posée en France? Est-ce que vous en avez discuté avec le président, avec les présidents des deux chambres?
Elle n'est pas posée sur la table à ce stade. Il faut se poser la question à chaque fois qu'on prend une mesure, de quelle que soit la nature. C'est si nous le faisions dans telle ou telle instance, dans telle ou telle assemblée, qu'est-ce qu'on ferait dans les conseils municipaux qui vont siéger à partir...
On peut imaginer que la représentation nationale, de par la représentation géographique des élus venant de tout le territoire...
C'est regardé c'est un peu à chaque fois qu'une décision est prise municipal. Par ce gouvernement, à chaque fois qu'une décision est prise, elle s'adosse à une réalité sanitaire et à une réalité scientifique. Et donc c'est sur cette base-là qu'on regardera les choses, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas à l'ordre du jour.
Ce n'est pas quelque chose que vous avez anticipé à ce stade, que vous avez regardé.
Mais tout s'anticipe. On est dans un pays où l'appareil d'État fonctionne, et donc c'est pour ça qu'on est stade 1, stade 2, stade 3. Il faut saluer aussi la mobilisation des services de l'État au-delà des services sanitaires, et donc tout. C'est pas parce qu'on l'anticipe qu'on va le faire. Et donc ce n'est pas une question qui est posée à ce stade.
Et vous avez parlé de travail par téléconférence ou visioconférence.
Pour le télétravail pour un certain nombre de fonctionnaires, parce qu'il y a moyen aujourd'hui de le faire.
Mais pour les élus. Est-ce qu'on peut
Pour siéger à l'Assemblée nationale, il faut être physiquement présent et donc c'est une autre question qui est posée évidemment.
Donc ça serait pas possible si le Parlement devait être suspendu comme c'est envisagé au Royaume-Uni de siéger à distance, d'avoir un système de vote, de visioconférence.
Là vous me posez une question c'est pas qui ouvre des perspectives un peu délicates, me semble-t-il. On a besoin, on l'a vu ces derniers jours, même si parfois c'est un peu conflictuel, je le dis sous l'œil du rapporteur général qui a travaillé sur les retraites. Le débat politique, il nécessite une confrontation et une présence physique, me semble-t-il. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. Je ne vois pas qu'à distance ou par visioconférence, on puisse nourrir un débat qui soit facile. Enfin, honnêtement, là, il y aurait une... En théorie, je vois, mais en pratique, ça me paraît un peu délicat, y compris devant les citoyens.
Et imaginons que le président de la République ou un des ministres soit touché. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Mais je vous rappelle quand même les données. 98% des gens qui sont touchés, c'est comme s'ils avaient une grippe. Est-ce que vous me poseriez la question de la même façon si c'est sur un cas de grippe? C'est quand même ça le sujet. L'essentiel des personnes qui vont être touchées par le coronavirus seront asymptomatiques pour beaucoup d'entre eux. Et pour ceux qui sont symptomatiques, relèveront plutôt de symptômes de l'ordre de la grippe. Donc il ne faut pas non plus, exagérer les effets. Après, on sait que sur des publics fragiles, en particulier les personnes âgées ou les personnes qui souffrent de pathologies qui les affaiblissent, ou d'un point de vue respiratoire, ou d'un point de vue cardiaque, ou parce qu'ils ont une immunité qui est plus faible que le reste de la population, ces personnes-là sont plus en sensibilité. C'est vers eux que ça se touche. Et donc notre intérêt et notre soin doit porter, mais sur le reste de la population, on est sur un virus qui est pour l'essentiel bénin, il faut le rappeler.
Oui, il faut le rappeler, vous avez raison, transparence, anticipation et surtout pas de psychose. Oui.
Vous estimez que collectivement, il y a une forme de surréaction, que ce
soit
jamais
de surréaction.
Des pouvoirs publics, des médias, enfin...
Ce qui est intéressant de poser dans cette crise, qui est une crise sanitaire d'ampleur mondiale, vous avez dit une crise nationale, c'est une crise européenne, mondiale, on parlera peut-être des effets économiques, mais l'important c'est la question sanitaire qui est posée. Je crois que nous avons pris toutes les mesures d'anticipation, d'information, parce que dans ces moments-là où parfois il y a des craintes qui s'expriment, il faut qu'on puisse dire les choses de manière transparente, mesurer les risques et répondre au fur et à mesure que les risques apparaissent.
Marc Fesneau, la classe politique globalement est solidaire du gouvernement dans la gestion de cette crise, à part du côté du Rassemblement national.
Ça ne m'a pas échappé, oui.
Ça ne vous a pas échappé. Marine Le Pen dit qu'il aurait fallu prendre des mesures plus tôt, déclencher le stade 3, fermer les frontières. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, je ne sais pas, je ne savais pas que Mme Le Pen avait des qualités scientifiques et des connaissances scientifiques qui lui permettaient de dire et de donner dans le yaka faucon. Dans la plupart des pays, les choses sont gérées. Je trouve qu'en France, c'est plutôt bien géré. et que nous sommes à la fois dans un contexte de préparation et d'anticipation et dans un contexte d'information des populations, Madame Le Pen est dans le rôle habituel qui est le sien, c'est celui d'agiter les peurs et de donner des conseils sans connaître du tout le fonctionnement de l'appareil d'État. Et donc dire il faut passer en stade 3 parce qu'il faudrait passer en stade 3, le stade 3, il se justifie dès lors, je le répète, que le virus serait propagé au point que les mesures de stade 2 ne sont plus de même nature et qu'il faut redéployer le système de santé pour faire en sorte que la médecine de ville en particulier puisse prendre en charge les patients qui souffrent le moins et qui sont le moins en risque. Et donc, on n'est jamais surpris, en tout cas, on n'est jamais surpris positivement par Mme Le Pen. Et son esprit de responsabilité n'est pas au rendez-vous, mais est-ce qu'au fond, c'est une surprise pour vous? Pour moi, non.
Marc Fesneau, on va marquer une première pause et on se retrouve juste après, on va continuer à parler du coronavirus et donc de l'impact économique et ensuite sur les municipales.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Damien Fleurot,
Aurélie Herbemont.
Nous sommes toujours avec Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. On parlait de la crise du coronavirus qui a un impact sanitaire évidemment, mais aussi un impact économique. Bruno Le Maire, votre collègue ministre de l'économie, dit déjà qu'il sera significatif sur la croissance.
Pour tout le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, que ce soit en Outre-mer d'ailleurs ou sur la métropole, le soutien que nous voulons apporter, c'est un soutien en trésorerie.
Nicolas Barret vous interroge.
Alors Marc Fesneau, le Premier ministre lui-même d'ailleurs a dit vendredi que le coup de frein sur la croissance pourrait être violent et durable. L'Allemagne et l'Italie sont déjà au bord de la récession. Est-ce qu'il faut s'affranchir des contraintes de Bruxelles, par exemple, pour essayer d'atténuer l'impact économique de tout ça?
Peut-être dire quels sont les risques sur la croissance, si je peux me permettre. Il y a à la fois un choc et un risque de crise sur l'offre et un risque de crise sur la demande. Sur l'offre, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de lignes de production risquent d'être interrompues quand elles ne le sont pas déjà parce qu'il manque telle ou telle pièce. C'est la question de l'automobile, c'est la question des composants électroniques, c'est la question de l'agroalimentaire aussi. Il y a un certain nombre de champs de production qui risquent d'être impactés compte tenu de ce qu'est la structure de l'économie mondiale.
L'agroalimentaire, vous dites, il y a des risques de pénurie?
Non, il n'y a pas de risque de pénurie, mais c'est la façon dont on produit peut être... Non, il n'y a aucun risque de pénurie. On n'est pas dans ce registre-là, mais il y a un certain nombre de sujets qui nécessitent du transport, et comme le transport peut être contingenté, parfois ça peut provoquer un certain nombre de risques, mais je pense en particulier à l'automobile et, comment dirais-je, aux affaires électroniques. Il y a un deuxième sujet, c'est...
La demande.
La demande, la consommation. C'est un certain nombre de citoyens dans le monde, en France aussi, qui peuvent avoir une politique de consommation qui soit plus prudente, qui vont moins dans tel ou tel commerce, qui vont moins dans tel ou tel manifestation, les manifestations culturelles. Les organisateurs de manifestations culturelles sont particulièrement impactés. Et c'est le moment de dire que on n'est pas dans une phase, je le disais tout à l'heure, où cette épidémie est une épidémie qui porte des risques au point qu'on puisse... En rabattre, si je peux dire, sur les activités classiques. Mais ceci dit, c'est un réflexe classique dans ce genre de phénomène. Et donc, ça porte ces deux risques-là, d'offre et de demande, sont des risques assez lourds, me semble-t-il. Et donc, ça nécessitera d'abord des mesures conjoncturelles immédiates, qui sont des mesures de trésorerie, comme l'a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, et puis sans doute des mesures européennes. On va regarder au niveau européen à partir du moment où on pourra circonscrire et voir à peu près dans quel registre on est sur ce choc de croissance, quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Mais je ne vois pas, j'ai vu que la Banque centrale américaine avait pris un certain nombre de mesures, que les banques centrales d'un certain nombre d'autres pays avaient pris un certain nombre de mesures. Je ne vois pas que l'Europe puisse être non agissante sur cette crise pour relancer l'économie, pour éviter un choc de croissance qui soit violent.
Marc Fesneau, vendredi a été un jour noir sur les marchés financiers mondiaux. Est-ce qu'on est en train de vivre une crise peut-être aussi grave, plus grave que celle de 2008, la crise financière?
À ce stade, non. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de banques centrales ont commencé à réagir. Et je pense que la coordination européenne et la coordination des pays du G7, et au-delà du pays du G7, la coordination des grandes puissances économiques va être nécessaire pour éviter qu'on ait un choc plus puissant.
On est en train de gérer cette crise. L'heure n'est pas au bilan, mais est-ce que peut-être déjà, vous, ça vous fait réfléchir sur des changements de méthode, de politique? On parle peut-être de relocalisation de certaines
mais
activités.
À vrai dire,
est-ce que vous êtes en train de changer aussi
le
peut-être
mouvement
votre logiciel?
De relocalisation ou de la réflexion sur la relocalisation, je le parle sous l'œil d'experts, il n'est pas complètement nouveau. Au fond, depuis un certain nombre de mois, voire d'années, un certain nombre d'opérateurs économiques considèrent que l'interdépendance totale ou la mono-indépendance, si je peux dire, à telle ou telle industrie ou à tel ou tel pays pour production de tel ou tel composant, était facteur de risque. Et le coronavirus et cette crise épidémique vient d'une certaine façon conforter un certain nombre d'éléments. Et donc, d'une certaine façon, on nous amène à réfléchir, une fois la crise passée, sur la façon dont s'organise l'économie et comment on la rend plus résiliente, capable de réagir à un choc dans tel ou tel pays, à un choc qui peut être un choc diplomatique, et à un choc comme celui que nous connaissons, qui est un choc épidémiologique. C'est lié aussi à la question, si je peux me permettre, la relocalisation ou la façon de concevoir l'économie est liée aussi à la question de la transition écologique. On voit bien que tous ces sujets-là amènent à une réflexion sur la relocalisation. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement a mené une politique active en termes de relocalisation des activités industrielles et que de grands opérateurs économiques, déjà, avant cette crise du coronavirus, avaient essayé de regarder comment ils pouvaient, pour une partie de leurs activités, relocaliser.
Donc mais au fond, ça va accélérer le mouvement.
Ça peut en tout cas conforter l'idée et conforter le mouvement qui était celui qui était déjà à l'œuvre. Ce n'est pas un élément... Le coronavirus est un élément nouveau, mais la question de la relocalisation et de la réorganisation de l'économie n'est pas un élément nouveau, et c'est ce à quoi a œuvré le gouvernement depuis qu'il est en place en 2017.
Marc Fesneau, vous parliez de l'impact effectivement sur le monde de la culture avec des spectacles qui sont annulés. Il y a aussi d'autres événements. Le marathon de Paris qui devait avoir lieu au mois d'avril est reporté. Dans ce contexte, on se dit, on vote dans une semaine, en quoi on peut plus facilement organiser des municipales que ce genre d'événements sportifs, culturels?
On n'est pas du tout dans la même configuration. Quand on vote aux municipales, d'abord, on vote par nature dans le territoire où on est résident. Et donc, on est sur un lieu où on est de soi... Le mode d'élection est un mode confiné, si je peux dire.
Il y a moins de transferts ou de population.
Ce pourquoi on essaie d'éviter les grands rassemblements de plus de 5000 personnes, les espaces confinés et un certain nombre de mesures sont prises.
C'est pour éviter le brassage
vienne diffuser plus rapidement qu'on ne le souhaite le virus à l'ensemble du territoire national. On n'est pas du tout dans cette configuration-là sur les élections municipales. Il n'est pas question pour nous de reporter les élections municipales à cette date. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Collectivités... et le ministre des Collectivités, ont rencontré les associations d'élus jeudi ou vendredi, me semble-t-il, pour discuter avec eux des modalités, peut-être un certain nombre de précautions qui seraient prises au moment du vote.
Par exemple,
l'ensemble d'entre vous été voté, quand vous votez, vous n'êtes pas confiné à 5000. Vous êtes dans un bureau de vote où vous passez généralement assez peu de temps. Simplement rappeler à l'entrée des bureaux de vote que... on ne se serre pas les mains, que les mesures qui s'appliquent à l'extérieur du bureau de vote s'appliquent à l'intérieur du bureau de vote. J'étais hier à une manifestation dans mon village à Marchenoir, un repas des anciens, on avait affiché à l'extérieur le fait qu'il fallait respecter les consignes qui avaient été données par le gouvernement, qui étaient celles de se laver les mains et d'éviter les contacts. C'est des mesures de précaution très simples, qu'on a d'ailleurs, au fond, qu'on recommande aussi pour la grippe. Sauf que... C'est exactement le même type de mesures. Et c'est donc ces mesures-là, aussi simples que celles-là, qu'il faudra mettre à l'œuvre au moment du vote. Après, il y a un questionnement, et donc on est en train d'expertiser, si j'ai bien compris, un questionnement sur ceux qui seront dans les bureaux de vote en permanence et qui procéderont au dépouillement. Et là aussi, on va regarder les choses. Mais pour ceux qui vont voter, on est sur quelque chose d'assez classique. À vrai dire, vous allez dans un supermarché le samedi, vous voyez beaucoup plus de monde que quand vous allez dans le bureau de vote le dimanche. Et donc, vous voyez bien que on va pas confiner les gens dans chaque maison et dans chaque habitation du pays, parce que vous voyez bien à quel point ça serait impossible. Non pas tant pour des sujets économiques, et pas seulement. Simplement parce que si vous restez chez vous, quelle est la vie sociale et comment s'organise un pays dans lequel vous diriez pendant 15 jours ou 3 semaines, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, alors qu'il n'y a pas de motif objectif à le faire en plus.
On sait, Marc Fesneau, que les personnes âgées sont les plus vulnérables face au coronavirus. Est-ce que vous craignez que certains aient peur d'aller voter dimanche prochain?
Il peut y avoir, mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait une question de crainte, mais là aussi, regardons les choses comme elles ont pu se passer. Le président de la République a été visiter une maison de retraite, un EHPAD, comme on dit, vendredi, pour à la fois alerter sur les mesures de précaution qu'il faut prendre, mais on n'est pas dans une affaire de confinement. Par ailleurs, il y a la capacité de procuration pour ceux qui le veulent.
Le ministre de l'Intérieur a dit que ce serait facilité, d'ailleurs.
Les procurations sont déjà grandement facilitées depuis une dizaine d'années, et là, elles seront encore plus facilitées pour ceux qui pourraient avoir une crainte ou pourraient avoir une envie de ne pas sortir. On a eu des mesures de même nature, d'ailleurs, sur les personnes âgées, je le rappelle, quand il y a eu des crises type canicule. Où on dit aux gens, soyez prudents, faites attention. Donc on est sur des mesures assez classiques.
Sauf qu'il n'y avait pas de scrutin à ce moment-là. Ça peut avoir un impact quand même. On sait que les personnes difficile âgées à dire se mobilisent
oui,
traditionnellement
c'est plutôt
un
électorat
que le reste des Français. Peut-être qu'il y a un peu d'inquiétude,
Je ne veux pas parler que de mon village, mais hier à la manifestation où j'étais, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une crainte particulière des personnes âgées, simplement des mesures de précaution classiques.
À droite, on semble un peu s'inquiéter de cette faible participation de cet
électorat particulier. J'ai du mal à penser que par nature, parce qu'on serait une personne âgée, on voterait à droite.
Mais on s'inquiète à droite parce qu'on a aussi beaucoup de maires sortants.
Mais ce n'est pas parce qu'on est un maire sortant qu'on n'est pas élu aussi par des personnes qui, de tous âges. Sinon, ça va un peu restreindre le vote, me semble-t-il. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait un effet de cette nature-là. Et je ne sens pas, mais je peux me tromper, mais je ne sens pas, au-delà des mesures de précaution et de la vigilance, parce qu'on... C'est un appel à la vigilance collective. C'est aussi un appel à la vigilance de dire ce qu'a dit le président de la République dans les maisons de retraite. On évite de faire venir de jeunes enfants, même si on a envie d'aller voir sa grand-mère.
On interdit d'ailleurs maintenant. Oui.
Pourquoi ? Parce que les jeunes enfants sont. Il est plus difficile d'expliquer un jeune enfant qu'il faut pas sauter au cou de tout le monde et que donc par mesure de précaution, il vaut mieux qu'il ne soit pas en contact. Mais c'est plutôt de cet ordre-là. Je ne vois pas d'impact, pour aller un tout petit peu plus loin, qui soit un impact électoral lourd et profond, peut-être un peu sur la mobilisation. Mais je le répète, il faut regarder les choses comme elles sont. On est dans un cas de même nature, et en nombre de cas aujourd'hui beaucoup plus faible que le cas de la grippe. Et donc il faut prendre des mesures de précaution. C'est plutôt la réflexion que nous avons, y compris dans le passage le jour venu au stade 3, c'est l'organisation des soins pour que ceux qui auront le plus besoin de soins, c'est-à-dire les personnes vraiment très fragiles, puissent bénéficier des soins.
Vous évoquiez tout à l'heure des mesures spécifiques pour ceux qui seront en charge du dépouillement, des opérations électorales concrètement. Vous pensez à quoi, par exemple? On va dépouiller.
On va regarder. Il faut s'adosser. Donc, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Il faut s'adosser à la science.
Ouais. Chacun son stylo.
Il faut s'adosser à la science et on regardera ce que nous diront les scientifiques et les autorités sanitaires sur le sujet.
C'est dimanche prochain, le premier tour. Il faut regarder vite.
Il me semble que nous avons suffisamment anticipé les choses pour annoncer les choses quand elles devront être annoncées. Mais il n'y a pas de risque ou de phobie à avoir particulière sur ce sujet.
Pas de phobie à avoir sur les municipales sur fond de coronavirus. Non. On va parler des municipales.
Il y aurait quelque chose d'ailleurs étonnant,
et
pardonnez-moi, en démocratie, de dire on interrompt un processus démocratique au motif que nous aurions un syndrome grippal. À quel pays ressemblerions-nous si nous étions dans cette logique-là? Il y a quelque chose qui serait assez anormal. N'ayant pas de risque particulier, il faut prendre les précautions. C'est aussi simple que ça. Pardon.
Eh bien, on va parler du scrutin version politique dans quelques minutes avec Marc Fesneau.
Le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré,
Damien Fleureau, Aurélie Herbemont.
Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, est toujours avec nous. Alors Marc Fesneau, la semaine prochaine, on vote pour les municipales. Dans la majorité, tout le monde s'attend à une déroute, vous aussi?
On va regarder les résultats du scrutin, on va attendre les résultats du scrutin pour voir. De toute façon, les élections municipales sont des élections locales. On va peut-être parler de 3 ou 4 villes, mais il y a 35 000 scrutins. Le défi pour cette majorité, c'est de faire en sorte que dans les territoires, un certain nombre d'élus, soit municipaux, soit adjoints, soit maires, soit dans le plus grand nombre élus. C'est une élection qui est toujours difficile pour les entrants. Mais je le dis aujourd'hui, je l'avais dit il y a 6 mois ou il y a 12 mois, donc j'ai pas de difficulté à le redire à votre micro.
Certains dans la majorité étaient plus optimistes que vous il y a quelques mois.
Je vous parle de ce qu'était mon point de vue. Je pense qu'une élection municipale ne répond pas tout à fait à l'équation classique des élections. Les élections régionales, les élections européennes, évidemment, les législatives sont des élections par nature à fort enjeu national. Là, on est dans une équation qui est une équation dans laquelle le sortant a une prime, incontestablement, toujours. Il y a une forme d'inertie du système, et c'est pas péjoratif quand je le dis, une forme d'inertie du système qui fait que le sortant, dès lors qu'il a un bilan correct, dès lors qu'il n'y a pas eu de division dans sa majorité, il a une capacité de résistance qui est assez forte à toutes les vagues qui pourraient naître.
La dernière fois, il y avait eu une vague bleue favorable à la droite.
Oui, mais il y avait un certain nombre de gens qui étaient déjà inscrits dans l'opposition. Là, on a toute une génération, c'est la volonté qu'a eu En Marche et qu'a eu le Modem aussi. D'ailleurs, déjà, nous avons connu d'autres épisodes pour ce qui nous concerne au Modem. C'est la capacité à avoir des candidats le plus possible dans les territoires. Mais c'est vrai que construire une personnalité locale, c'est un temps qui est forcément un peu long. Et donc, on regardera évidemment, et vous regarderez encore plus que nous d'ailleurs, les résultats.
C'est possible qu'on regarde, effectivement.
Il n'est pas impossible que dimanche, pas à la même heure, mais quelques heures plus tard, vous regarderez avec attention les résultats. Mais ce qui est important, c'est de regarder la capacité qu'auront eu les candidats soutenus par la majorité à s'ancrer dans le territoire. Et il me semble qu'on a besoin d'avoir dans tous les territoires de France des candidats, des candidatures et des élus municipaux qui iront après dans les intercommunalités, qui après pourront se présenter dans les départements. Il y a un deuxième phénomène qui vous aura pas échappé, c'est qu'on est dans une élection qui s'est dépolitisée. C'était déjà une élection très dépolitisée, mais je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup d'affiches où les logos soient très visibles.
Surtout au sein de la majorité présidentielle.
Quels que soient les candidats.
Il y a un contre-exemple, Europe Écologie Les Verts, dans les sondages, l'étiquette, le logo, oui, a l'air de très bien fonctionner.
Il y a une étiquette qui n'est pas une étiquette partisane, mais qui est une étiquette d'envie, et que nous partageons dans la majorité, d'avancer sur les questions écologiques. Mais ce n'est pas une étiquette partisane. Pourquoi ? Parce que les élections locales, la plupart des listes sont composées de gens qui viennent d'horizons différents. Dans 35 000 communes sur 36 000, il y en a un peu moins de 36 000 désormais, je vous assure que les listes ne sont pas composées en fonction des étiquettes partisanes.
Mais donc, vous voulez dire que c'est un repoussoir de marquer MoDem sur une affiche électorale ?
Je ne vous ai pas dit ça, je vous dis en général, dans les élections locales, l'étiquette partisane disparaît. J'ai été candidat dans ma commune en 2008 et il y avait écrit dans le journal local « Marc Fesneau, MoDem, présente sa liste ». Ce qui avait fait un peu réagir les 14 autres candidats de ma liste à Marche Noire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient dit « on n'est pas MoDem ». Et la vérité, c'est ça. C'est que dans la plupart des listes, vous avez des gens qui viennent d'horizons différents. Et donc, si vous voulez composer une liste qui soit qui figure l'ensemble de la diversité des opinions républicaines, si vous voulez avoir une liste qui compose les différents quartiers ou les différents secteurs, vous n'infligez pas, vous n'imposez pas aux gens votre étiquette, même si vous assumez votre étiquette. Je suis MoDem, tout le monde le sait. Il y a des gens qui sont à La République En Marche, tout le monde le sait. Mais en même temps, la composition d'une liste municipale, c'est une liste d'intérêt municipal. Et donc, vous n'imposez pas votre étiquette. Et c'est valable pour La République En Marche, pour le MoDem et pour tous les autres formations politiques. C'est quand même un principe de base aux élections municipales. Et je trouve que c'est l'équation très particulière de ces élections-là.
Marc Fesneau, un sondage que publie le Journal du Dimanche aujourd'hui, réalisé par l'Institut IFOP, montre que 48% des électeurs souhaitent qu'une liste d'Europe Écologie Les Verts remporte les élections municipales dans leur commune. Est-ce que finalement c'est pas le signe que la majorité présidentielle n'est pas du tout crédible sur ce sujet, malgré les annonces
Mais ça n'est pas une affaire d'annonce, pardonnez-moi.
Emmanuel Macron, par exemple.
D'action
Non, mais ce n'est pas une affaire d'annonce, que nous avons œuvré comme aucun gouvernement n'a œuvré.
Mais visiblement,
que ça ne soit pas perçu par les citoyens suffisamment, je veux bien l'entendre, mais quel est le gouvernement qui a décidé la fermeture des centrales à charbon ? C'est le nôtre. Quel est le gouvernement qui a décidé l'arrêt de l'exploration des hydrocarbures ? C'est le nôtre. Quel est le gouvernement qui a fermé Notre-Dame-des-Landes ? C'est le nôtre. Quel est le gouvernement qui ferme Fessenheim ? C'est le nôtre. Quel est le gouvernement qui a mis en place récemment une loi sur les questions
donc
de déchets ?
Donc vous dites c'est suffisant et on n'ira pas plus loin éviter
vous
peut-être.
Vous n'avez pas entendu dire c'est suffisant. Mais qu'on ne vienne pas nous faire à nous des griefs de ne pas avoir voulu avancer sur ces sujets. Quel est le gouvernement qui est en pointe sur ces questions de défis climatiques ? C'est le nôtre. Je ne dis pas que les transitions sont faciles, mais il y a ceux qui vous disent « voilà ce qu'il faudrait faire » et qui, quand ils sont en responsabilité, ne l'ont jamais fait. Parce qu'au fond, ceux qui viennent vous donner des conseils aujourd'hui, pour une part, ils ont été au pouvoir. Pour une fois, ils ont été en charge de responsabilité. Et maintenant, ils regardent, assis au bord de la route, et ils nous disent « comment ça, vous n'allez pas assez loin ?» Nous, on essaie de mener une transition qui est claire sur le cap et sur les objectifs, y compris dans sa temporalité, mais en même temps, la transition nécessite qu'il y ait des étapes et de ne pas violenter une société ou des acteurs sans pouvoir leur expliquer le chemin. Je pense à la question agricole, que c'est une question que je connais un peu. On sait très bien qu'il faut sortir d'un certain nombre de produits qui sont utilisés en agriculture. On sait très bien qu'il faut que le modèle évolue. Mais vous n'infligez pas aux agriculteurs un changement de modèle contre eux. Et donc, c'est la ligne d'ailleurs de différence que j'ai avec un certain nombre de ceux qui peuvent porter l'écologie et reconnaissons que nous pouvons partager avec eux la même volonté.
Par exemple, sur le réchauffement climatique. Les Verts veulent aller trop vite, trop fort, trop loin.
Selon vous. Force de dire,
si on ne fait pas ça, on ne fait rien, en fait, on finit par rien faire. Et nous, on a fait le choix de faire. C'est la grande différence. Parce que l'idée de dire, quand vous dites qu'il faut sortir du nucléaire...
C'était pour Nicolas Hulot, votre ancien collègue.
Non, mais c'était pour personne. Chacun prend comme il veut. Je dis des choses sans penser forcément à mal, sans penser à dire du mal de quelqu'un. C'est pas, en tout cas, ma façon de faire, si je peux me permettre. Mais ceux qui ont dit pendant des années, il faut sortir du nucléaire. Alors après, on a un très beau modèle devant nous. C'est le modèle allemand. Ils sont sortis du nucléaire. Résultat des courses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les centrales à charbon. Et résultat des courses, leurs émissions de gaz à effet de serre ont augmenté. Bon, alors c'est très bien de dire on sort du nucléaire. La question, c'est de savoir quel est l'objectif qu'on poursuit et qu'est-ce qu'il y a de crédible dans la parole. Je trouve qu'il y a beaucoup de paroles verbales, comme on dit, dans ces sujets-là. Beaucoup de gens qui vous disent « il n'y a qu'un faucon ». Nous, on fait. On fait avec les contraintes qui sont celles d'une transition et d'un modèle qui a plus de 100 ans. Le modèle industriel, le modèle tel qu'il s'est construit, le modèle de la voiture. Moi, je vis dans un territoire rural. Vous n'expliquez pas aux gens du jour au lendemain qu'il ne faut plus de voiture. Parce que s'ils n'ont pas d'alternative, vous avez des crises comme celles des gilets jaunes. Donc, on ne fait de grands changements qu'en le faisant avec les gens et pas contre eux et pas sur les estrades dire il n'y a qu'à faucon. Quand on dit il faut faire du bio, par exemple, pardonnez-moi, je prolonge un peu, il faut faire du bio dans les cantines. Moi, je l'ai fait, j'ai pas attendu que quelqu'un vienne me le dire dans les propres cantines du territoire dont j'étais le président de communauté de communes, avec des produits locaux, avec des repas protéinés, mais vous le faites dans la durée avec le temps, parce que sinon vous vous retrouvez à venir importer du bio de pays étrangers, parce que vous n'êtes pas capable de répondre à la demande. Vous voyez, donc c'est très bien les discours, c'est mieux les actes, et c'est mieux les actes quand ils correspondent à une réalité que peuvent percevoir les acteurs. Les acteurs, c'est les citoyens, c'est les acteurs économiques, c'est les associations.
Nicolas Barré.
Les stratégies du MoDem et de La République En Marche ne sont pas alignées partout, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment dans plusieurs grandes villes. Hein, on va prendre quelques exemples. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas front commun avec En Marche, au fond ?
Bon, c'est l'histoire, l'histoire de chacun qui a pu guider les choses. Alors, dans 90% des cas, alors c'est comme mon verre, là il est à moitié plein, mais une fois tout à l'heure vous me direz qu'il est à moitié vide, donc on regarde les verres à moitié plein ou à moitié vide. Dans 90, 85 ou 90%, on est parfaitement aligné sur les villes de plus de 10 000. Je réponds à votre question quand même, parce que je ne vais pas éluder votre question, puis j'aime bien répondre aux questions qu'on me pose. Il peut arriver dans un certain nombre de villes que nous ayons pu diverger, pour des raisons de nature différente. Parfois parce que nous avions une histoire préalable pour ce qui est du MoDem, et parfois d'ailleurs En Marche aussi. Je prends le cas de Bordeaux, parce que vous ne manquerez pas de m'en parler. À Bordeaux, nous sommes en alliance avec l'équipe municipale de Bordeaux, d'abord avec Alain Juppé, puis avec son successeur Nicolas Florian,
qui est le candidat qui sera candidat la semaine prochaine.
Je fais attention, je cite, parce qu'après il y a des égalités de temps de parole.
Bordeaux, on peut en parler.
Nous avons fait le choix de soutenir Nicolas Florian, parce que nous considérions qu'il y avait un bon bilan, et deux, que nous étions dans une forme de continuité, d'une loyauté avec cette équipe-là. Ça n'empêche pas, moi je peux comprendre que La République En Marche ait envie par ailleurs de porter une candidature à Bordeaux. Moi je ne viens pas donner la leçon, mais il peut arriver que les histoires soient différentes. Et se respecter, c'est respecter l'histoire de chacun. Et moi je respecte l'histoire de La République En Marche, et La République En Marche respecte l'histoire du MoDem. On a beaucoup discuté avec Jean-Noël... Avec Stanislas Guérini, sur cette question-là,
le délégué général
de La République En Marche, pour faire en sorte que nous fassions le plus possible converger les points de vue. Il peut arriver qu'il y ait des exceptions, assumons-les aussi, ça n'est pas un drame, il y aura des deuxièmes tours et il y aura d'autres épisodes. Ça n'est pas un drame de ne pas être totalement aligné sur les élections municipales, ça montre aussi la question de la diversité. Il peut arriver aussi qu'au MoDem... il puisse y avoir des attitudes divergentes sur tel ou tel cas, et qu'à La République En Marche aussi, c'est la vie municipale. Ça génère toujours beaucoup de candidatures, les situations municipales, et c'est comme ça.
Marc Fesneau, à Marseille aussi, vous faites liste séparée, puisque le MoDem va directement au premier tour avec Martine Vassal, la candidate LR. Le candidat d'En Marche est un peu à la peine dans les sondages. Marseille, c'est parce qu'il y avait un risque Front National, Rassemblement National, pour vous ?
La lecture que nous avons pu faire sur Marseille, c'est celle-là. C'est de dire qu'il y avait manifestement un risque... puissant du Front National, peut-être qu'il gagne la ville, en tout cas qu'il en soit l'arbitre. Et moi, je n'ai pas envie que la deuxième ville de France soit l'otage ou prise en otage par le candidat du Front National. Et donc, il nous a semblé que le plus logique était d'opérer dès le premier tour ce rassemblement. De toute façon, la question se posera à partir du soir du premier tour, de regarder quels sont les voies et moyens. Ça appartient aussi à Madame Vassal, au fond, de faire en sorte que les voies et moyens soient trouvés pour qu'un rassemblement s'opère, si elle était en situation de l'opérer. On va attendre les résultats de dimanche prochain, pour faire en sorte que nous ne retrouvions pas dans la situation d'être pris en otage. Je vous rappelle la situation de 98, c'était il y a 22 ans, où un certain nombre de régions n'étaient pas majoritaires pour ce qui était d'un certain nombre de candidats de droite sans les voix du Front National. Et on a vu ce qu'il était advenu, malgré l'avis d'ailleurs des responsables politiques de l'époque, qui étaient Jacques Chirac et François Bayrou. Et François Bayrou est très vigilant sur cette question, parce qu'il faut se souvenir de ce qui peut se passer. Mmh. Et il n'est pas question de laisser Marseille dans cette situation-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là.
Et à Paris, Rachida Dati est en tête. Vous pourriez vous allier avec elle pour battre Anne Hidalgo ?
D'abord, moi, je voudrais saluer la campagne que fait Agnès Buzyn, qui est venu dans cette campagne dans les conditions que vous savez.
Donc non.
La question, on voit bien d'ailleurs quand vous regardez les sondages et les étiages, on est sur des étiages qui sont assez ramassés. Hein. Tout le monde se tient en gros à 5 points. C'est une élection par arrondissement. Il ne vous aura pas échappé que du côté de Madame Dati, il y a un certain nombre de gens qui ont fait dissidence ou des candidatures qui ont été posée par Madame Dati contre des élus sortants. Et donc je pense que l'équation va être beaucoup plus compliquée que celle que vous décrivez. Ce que nous souhaitons, nous, autour d'Agnès Buzyn, c'est qu'un nouveau projet soit porté par Paris. Et il me semble qu'elle incarne très bien la vision que nous avons de Paris, qui soit une vision d'équilibre, pas une vision de statu quo, parce que j'entends Madame Hidalgo nous expliquer tous les 6 ans ce qu'elle aurait dû faire et ce qu'elle va faire dans les 6 années suivantes. J'ai longtemps vécu à Paris, je constate comme vous, je n'ai pas le sentiment que Paris, sur un certain nombre de sujets, contrairement à d'autres villes d'ailleurs, quelles que soient leurs étiquettes, ait beaucoup progressé sur un certain nombre de sujets que Madame Hidalgo vient remettre sur la table tous les 6 ans, mais sur lesquels je ne vois pas très bien qu'on progresse d'un point de vue quotidien des Parisiens.
Mais à Paris, ce sera globalement difficile pour une des 3 candidates de gagner seule. Est-ce que vous souhaitez que En Marche et LR s'allient, alors derrière une des 2 candidates, pour battre Anne Hidalgo?
Mais pardonnez-moi, au risque d'être un peu insistant, vous prenez le cas du 15e arrondissement, il me semble qu'il y a 2 candidats.
Oui, il y a plusieurs arrondissements où il y a des
qui sont issus des rangs Madame Dati, il me semble qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Donc je propose assez volontiers qu'on regarde les résultats arrondissement par arrondissement dimanche pour faire les choses. Il y a un certain nombre de gens avec qui on voit bien à Paris, on peut discuter. Et pas seulement des gens qui viendraient du flanc droit, il y a des gens qui viendraient du flanc gauche avec lesquels on peut discuter. La question, c'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un projet et un programme qui soit un projet et un programme d'alternance réelle avec la situation dans laquelle est placé Paris. Mais en même temps, qu'il soit une discussion qui soit de partenaires qui partagent un certain nombre de valeurs. C'est sur ces 2 pieds-là qu'il faut marcher quand même. Vous voyez, c'est pas la victoire à tout prix. La victoire, c'est aussi la victoire des idées, du projet que nous portons. En tout cas, partagée avec un certain nombre de gens. Et donc, c'est comme ça qu'on regardera les choses. À partir du dimanche prochain.
On marque une dernière pause.
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Aurélie Herbemont.
Marc Fesneau, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes et la parité est encore loin. Seulement 21% de femmes tête de liste à ces municipales dans les communes de plus de 1000 habitants. C'est un peu mieux que 2014, elle n'était que 15%. Pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard?
Je pense que c'est une société qui a du mal à avancer sur ces sujets-là. Reconnaissons, je dis toujours ça en plaisantant, que quand vous demandez à un homme s'il veut être candidat, c'est assez rare qu'il vous dise non. Et quand vous posez la même question à une femme, pour avoir fait l'exercice à plusieurs reprises pour une élection municipale, forcément, il y a beaucoup plus de questions de quel est le sens de mon engagement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et quelle est la disponibilité qui va être la mienne. Ce qui n'est pas une question très masculine, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, il y a quelque chose à faire de ceux qui constituent les listes, des formations politiques, qui est d'encourager le maximum de femmes à rentrer dans la vie publique. Saluons quand même au passage
le fait... numéro 1.
Oui, et être numéro 1.
Parce qu'en l'occurrence, il y a la parité pour la constitution des listes.
Celle qui m'a succédé était donc une femme, qui était ma première adjointe. C'est aussi un processus, c'est le même processus. On gravit les mêmes échelons, hommes et femmes, de ce point de vue-là. Et donc, c'est important qu'on avance sur la parité. Je voudrais quand même saluer au passage le fait qu'à l'Assemblée nationale, le groupe qui est quasiment le plus paritaire, c'est le groupe de La République En Marche, qui est passé des paroles aux actes, là aussi. Il y avait une loi... On présentait les candidates plutôt dans les circonscriptions où on avait le plus de chances de perdre et on laissait les circonscriptions les plus gagnables aux hommes. Ça n'a pas été le cas en 2017, il faut quand même le saluer. Parce que dès lors que vous avez des parlementaires, femmes, hommes, plus à parité, c'est aussi un encouragement pour, dans les territoires, faire en sorte que les hommes et les femmes, et que les femmes donc, puissent s'engager plus volontiers. Il y a la question des municipales dans les mairies, il y a aussi la question des intercommunalités où il faut qu'on puisse pousser des candidatures féminines. Il y a eu un débat au moment de la loi sur l'engagement et proximité de regarder si on ne pouvait pas avancer sur les questions de parité. Je pense qu'il faudra qu'on avance un peu plus fort. C'est toujours regrettable de dire qu'il faille passer par la loi. Mais au fond, c'est quand même la loi qui permet de faire des pas et de fournir des pas. Ceci dit, je vois dans les territoires les plus ruraux qui ne sont pas soumis à la parité, dans beaucoup de communes maintenant, on prête attention à ces questions de parité. Et celui qui s'amuserait à faire une liste intégralement masculine, il y en a sûrement, mais je pense que ça serait regardé d'un œil un peu, y compris par les hommes, d'un œil un peu circonspect. Donc je crois qu'on avance, on n'avance jamais assez vite sur ces questions-là. Et je pense qu'il y a une question de que l'ensemble de la société pousse à l'engagement des femmes dans la vie politique.
Marc Fesneau, la réforme des retraites a été adoptée cette semaine à l'Assemblée grâce au 49-3, un passage en force, disent les oppositions. La majorité a rejeté la demande d'une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact. C'était voulu par le Parti Socialiste. Cette étude d'impact, cette commission n'aura pas lieu non plus au Sénat. Est-ce que vous avez un problème avec le débat parlementaire?
Moi, j'ai d'autant moins de problèmes que je respecte les règles assez simples qui sont celles de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas le gouvernement, c'est les deux assemblées qui se saisissent des demandes de commission d'enquête et qui les jugent sur leur recevabilité.
On sait que si le gouvernement se dit favorable...
Non, je suis désolé de vous dire, vous ne me prendrez pas au défaut de cette question-là. Je pense que c'est aux assemblées de se saisir et l'Assemblée nationale, en tout cas pour ce qui la concerne, la commission des affaires sociales, a jugé qu'il s'agissait de faire une commission d'enquête, je le rappelle... Mais je n'irai pas plus loin dans ce que j'en pense moi-même. Mais il s'agissait de faire une commission d'enquête pour regarder ce qu'était la nature de l'étude d'impact. Je rappelle que le Parlement contrôle l'action du gouvernement et que donc la délibération de la commission des affaires sociales a porté sur l'idée qu'on n'était pas dans une phase de contrôle de l'action du gouvernement, mais dans une phase où on disait avant, dans le processus d'élaboration de la loi, il faut qu'on puisse enquêter. Il y avait quelque chose pour la commission des affaires sociales, manifestement, qui ne convenait pas. Faut respecter aussi les assemblées dans leur choix. On peut ne pas être d'accord avec les socialistes, quand même. On a encore le droit de ne pas être d'accord avec les socialistes ou de ne pas être d'accord avec les républicains sans que ça soit un déni de démocratie. Vous voyez, il y a des choses assez simples dans la vie. La commission a voté, elle a voté même à bulletin secret, autant que je me souvienne, donc chacun était libre, et elle a rejeté cette demande de commission d'enquête. Donc, c'est aussi simple que ça.
Marc Fesneau, parlons du Sénat maintenant, puisque la suite du trajet parlementaire de la réforme des retraites sera au Sénat. Les sénateurs vous ont demandé de décaler le début de l'examen de 15 jours pour attendre la fin des conclusions de la conférence de financement. Le Premier ministre vous a chargé de travailler là-dessus. Est-ce que les sénateurs pourront commencer à examiner ce texte plus tard comme il le demande?
Alors d'abord, ça me permet de faire une toute petite digression sur l'affaire du 49-3 dont on a parlé tout à l'heure. Au fond, le processus législatif est loin de s'interrompre avec ce qui s'est passé cette semaine.
C'était la première lecture.
Il y aura une première lecture au Sénat.
Quand?
Laissez-moi finir. Je vais répondre à votre question, ne vous inquiétez pas. Il y aura une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Mais ça me permettra d'ailleurs d'y répondre. Et il faut qu'on ait le temps à l'Assemblée nationale. Il y aura une nouvelle lecture au Sénat. Et il y aura une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Vous voyez, autant d'épisodes démocratiques et de moments parlementaires qui permettront à chacun de pouvoir s'exprimer. Et je fais une digression dans la digression à l'Assemblée nationale en espérant quand même que les oppositions qui ont fait le choix, pas toutes, le Parti socialiste et les Républicains ont objectivement essayé de porter un projet alternatif. On n'est pas d'accord, mais ça, c'est le débat démocratique. En espérant que dans le travail qui sera fait à l'Assemblée nationale, on n'assistera pas à la même scène d'obstruction. Quant au Sénat, on est rentré effectivement en discussion, en dialogue. Il y a une demande qui est celle de décaler un petit peu le temps à partir duquel le texte sera examiné au Sénat. On en a parlé avec le président Larcher. Vous me permettrez de réserver la réponse au président de la Haute Assemblée et de regarder avec lui les conditions et voies et moyens pour y arriver. On a une seule exigence simple. On a deux exigences. La première, c'est que le débat parlementaire se passe dans les meilleures conditions. Au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et je regrette qu'à l'Assemblée nationale, un certain nombre ait choisi d'empêcher que le débat parlementaire se passe dans de bonnes conditions. Et la deuxième exigence, c'est que le texte soit voté avant la fin de la session ordinaire, c'est-à-dire avant le début du mois de juillet.
C'est compatible si les sénateurs commencent plus tard ?
C'est un dialogue global. Il faut regarder avec les sénateurs et avec l'Assemblée nationale, parce que ça n'est pas délié. Moi, je suis soucieux aussi que le débat, que le match retour, si je peux dire, à l'Assemblée nationale, se passe dans les meilleures conditions.
Le 5 mai.
Donc, j'ai entendu la demande du président Larcher. Nous y travaillons et nous allons lui répondre avec ce souci-là, ce souci de respecter les assemblées. Et il me semble que le gouvernement et la majorité a respecté, y compris à l'Assemblée nationale. Les choses, ça n'est pas nous qui avons, pendant des jours et des jours, provoqué, sans vraiment l'assumer au final d'ailleurs, une vague d'obstruction qui a fait que nous sommes arrivés à la solution que vous avez vue posée sur la table. Mais nous ne désespérons pas qu'à l'Assemblée nationale aussi puisse y avoir un débat, et au Sénat. Et donc c'est avec cette double équation, calendaire et de respect des institutions, et les deux institutions, et j'insiste, Assemblée nationale et Sénat, qu'on puisse faire un débat qui soit nourri. Le texte mérite que les deux assemblées puissent s'en saisir pleinement. Et donc, on va faire en sorte, et essayer de faire en sorte que les deux assemblées puissent s'en saisir pleinement.
Marc Fesneau, il y a une promesse de campagne d'Emmanuel Macron dont on n'entend plus beaucoup parler. C'est la réforme des institutions. Ça vous concerne en premier lieu, puisqu'il serait question de diminuer le nombre de parlementaires et d'instaurer la proportionnelle, qui est une demande du président de votre parti, le Modem, François Bayrou. C'est aux oubliettes, cette réforme ?
Juste un point d'étape, nous avons posé la réforme. Elle avait commencé à être débattue au mois de juillet 2018.
Perturbée par l'affaire Benalla.
Absolument. Et ensuite, la question de cette réforme, c'est de regarder quels sont les voies et moyens pour avoir un terrain d'entente avec le Sénat. Le président de la République et le Premier ministre ont donné un certain nombre d'éléments. Le président de la Haute Assemblée du Sénat, Gérard Larcher, a donné une forme de réponse en donnant quels sont les attendus. Et manifestement, nous ne sommes pas au compte, si je peux dire, d'un point de convergence à ce stade. Mais nous n'avons pas oublié la promesse. Et nous n'avons pas oublié. Et donc, il faudra un moment
comment
ou un
la
autre.
Mettre en œuvre,
il faudra un moment ou un autre que devant les Français, nous puissions reposer ce débat, de regarder s'il y a les voies et moyens d'un consensus. Nous n'avons pas renoncé à l'idée qu'il fallait réformer les institutions. Et au fond, les grandes crises démocratiques que traverse notre pays, elles posent la question du fonctionnement de nos institutions, la réduction du nombre, la question de la proportionnelle, mais bien d'autres questions du travail parlementaire. Je dis sous l'œil de trois parlementaires qui voient comment tous les jours les choses se passent ou se passent difficilement. Et donc on a besoin de retravailler avec ces choses-là, mais on a besoin, pour que la réforme constitutionnelle, la révision constitutionnelle se passe, qu'il y ait un accord avec le Sénat. Et donc, on va pas passer par-dessus les droits constitutionnels ou par-dessus la Constitution. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on engagerait les choses. Et donc, il y a besoin de renouer le dialogue. On a d'autres sujets pour l'instant, c'est vrai. Il y a d'autres sujets de priorité, je pense à la question des retraites. Mais devant nous avons aussi les questions écologiques, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il faudra aller sur un certain nombre d'autres sujets plus loin. Il y a la question de la dépendance et du grand âge, qui est une question extrêmement centrale pour nos concitoyens. Mais on ne fera pas comme si on avait oublié notre promesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est très clair sur l'idée que c'est un engagement qu'avait pris le président de la République, que cette majorité avait pris.
Le temps tourne pour que ce soit mis en œuvre.
Je ne peux pas vous dire mieux que,
comme
2022. On est dans une démocratie, il faut qu'il y ait un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc il faudra qu'on repose la question et regarder les termes de ce que peut être une convergence. Il y a un élément, je le dis au passage, qui va être intéressant de regarder. C'est ce qui sera issu des travaux de la Convention citoyenne.
Qui doit rendre ses conclusions fin avril,
voilà,
pour le climat.
Parce que je pense que c'est une voie qui a été choisie par le président de la République en sortie de la crise des Gilets jaunes, pour essayer de regarder comment aussi on pouvait faire en sorte que les citoyens s'approprient mieux les sujets et qu'il y ait une interaction entre le Parlement, la démocratie représentative, et la démocratie directe ou la démocratie citoyenne. C'est aussi quelque chose qui est important et auquel les citoyens... C'est aussi une question institutionnelle. Faut pas oublier ça. Ne réduisons pas la question institutionnelle à un seul sujet. La question institutionnelle, c'est le rapport aux citoyens, le rapport à la démocratie représentative, la question du nombre et de la répartition, c'est la proportionnelle. Il y a tout ça comme sujet.
Beaucoup de sujets dont on aura l'occasion de reparler.
J'imagine.
Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir été notre invité. La semaine prochaine, vous retrouvez Mickaël Darmon.
Exactement. Merci Aurélie Herbemont. Mickaël Darmon revient dimanche prochain, du coup, à 10h. Et si vous voulez réécouter ce grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, je vous rappelle que vous le pouvez à n'importe quel moment sur europe1.fr. Mais attendez encore un tout petit peu pour le faire, parce que dans quelques minutes, vous allez retrouver Frédéric Tadeyer et son invité du jour pour sa balade, comme chaque dimanche. Bonjour Frédéric. Vous êtes accompagné par qui aujourd'hui ?
Bonjour Justine, c'est le comédien Michel Faux qui nous a donné rendez-vous aujourd'hui. Il porte haut l'étendard du théâtre de divertissement, à la fois drôle et cruel. On va voir où ça nous emmène.
En effet, à tout de suite Frédéric.